C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nouveau point sur l'actualité dans un peu moins d'une heure sur la Radio du Monde.
Radio G. 101.5 FM.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Quoi de mieux pour commencer la semaine que la douce voix du Noodles qui est là avec nous ce soir, Bonsoir Noodles.
Belle faute de français pour démarrer l'émission, Pierre Benoît.
Merci. Mais... conte-nous la langue française, s'il te plaît. Toi, le théâtre de l'émission.
Bien sûr, un petit alexandrin peut-être pour démarrer la journée.
Oui, s'il vous plaît, avec des glaçons.
Avec. Ça, c'est Bob Marley.
Ok, c'est ça l'alexandrin?
Non, pas du tout. Mais tu m'as perdu avec ta blague sur les glaces.
Bon,
en fin d'émission, un petit alexandrin.
Le roi de l'impro, ça reste quand même Charles, qui sera avec nous demain pour l'édito impro. Puisqu'on parle de demain, autant vous présenter la semaine qui arrive, les infiltrés du THV. Donc demain avec Bordel Léon, un des groupes musicaux qui est retenu pour On Stage. Ce sera du côté du Joker's Pub le 20 mars. Mercredi, on va être dans cinéma, un petit peu comme ce soir, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Des projections ciné du côté des Hauts-de-Saint-Aubin et jeudi, le retour des folies, même des cours en folie. Décidément, je m'en rends compte à l'énoncé de cette semaine qu'on va parler beaucoup de cinéma, puisque ce soir, on est avec Yves Maguin, le président, il me semble, de Chant contre Chant, l'association éponyme du festival qui est porté donc par cette association, festival de courts-métrages et de vidéoclips, et même des prestations, des performances d'artistes musicaux. Ça se passe du 22 au 24 mars du côté du 4. Et puisqu'on est au 4, deux étudiants de l'Estois sont avec nous aussi. Alors ils sont en master médiation culturelle et communication, mais on peut, voilà, il y a encore d'autres mots je crois qui peuvent se greffer à cet énoncé. On sera avec Jessica et Marc et on vous en dit un tout petit peu plus. Il y aura notamment Sandra Ricordo je crois, qui est chroniqueuse dans l'émission, qui sera aussi jury pour ce festival. Et on va parler de magie, je crois, avec toi, Mathéo. Empare-toi du micro. On va faire quoi tout à l'heure en fin d'émission?
On va parler du festival Vive la Magie. C'est samedi et on a deux galas internationaux. Donc voilà, ça sera l'occasion d'en apprendre plus sur ce joli festival.
Tiens, regarde, petit tour de magie. Hop, je te fais disparaître.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Enfin, pas tout à fait, parce que je te fais réapparaître de suite pour le Flash Info et le point sur les actus à Angers. Mathéo, on commence avec un vaste réseau de drogue nationale jugé à Angers.
Le procès débute aujourd'hui. Jusqu'au 15 mars, la chambre correctionnelle d'Angers jugera 11 personnes appartenant à un trafic de drogue nationale. Le 14 avril 2022, aux alentours de 2h du matin, une Volkswagen Polo fait demi-tour devant le péage de Corzé en voyant la douane. Elle est par la suite interceptée à Écouflant, découvrant 35,6 kilos de cannabis couplé à quelques grammes de cocaïne. Une enquête se lance alors. Elle révèle que ce réseau est très structuré, géré par deux hommes. Les enquêteurs estiment que la somme récoltée par mois par ce réseau est d'environ 186 000 euros, soit un total sur 15 mois de 2,87 millions d'euros, ce temps étant la durée de vie du réseau. À savoir que l'équipe était basée dans plusieurs secteurs de la banlieue parisienne. Ce sont donc 11 personnes qui seront jugées au cours de ces 5 jours de procès. Ils sont poursuivis pour le transport, l'offre, la détention, la cession et l'acquisition de stupéfiants. Au total, les membres du réseau pourraient être condamnés à 10 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Le département continue sa lutte contre le trafic de drogue à l'heure où un toxicomane de Saint-Hilaire-Saint-Florent et son dealer étaient condamnés à Nantes vendredi dernier.
Une cérémonie pour rendre hommage aux victimes des attentats.
Le 11 mars est la journée nationale d'hommage aux victimes des attentats. Instaurée en 2019, cette date fait référence aux attentats de la gare de Madrid Atocha en 2004. Une journée importante de commémoration qui répond à la demande de nombreuses victimes. À Angers, la cérémonie est prévue place de la paix. Elle sera présidée par Philippe Chopin, le préfet du Maine-et-Loire, qui sera accompagné de collégiens, d'autorités civiles et militaires, mais aussi de familles de victimes. Dans un premier temps, des allocutions prendront place, suivies d'un dépôt de gerbes au pied du monument de la paix.
La première pierre de la future maison pour jeunes posée jeudi dernier.
Sarah El Haïry, la ministre de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, était sur le lieu. C'est elle qui l'a posée. Les travaux de la future maison pour jeunes à caractère social, abrévié MECS, ont commencé en décembre 2023. C'est le groupe Réalité qui est chargé de livrer la structure à la rentrée 2025. Située dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, elle accueillera 77 enfants âgés de 3 à 18 ans présentant des difficultés sociales et familiales. Ils ont été été placé par l'aide sociale à l'enfance pour une durée indéterminée allant de plusieurs mois à quelques années. Il s'agit de la 8e MECS du département.
Il avait pointé le bout de son nez ce week-end, mais il ne va pas rester bien longtemps.
Oui, demain le soleil va s'en aller, le ciel angevin sera très chargé. La présence de nuages ne sera cependant pas accompagnée par la pluie. Niveau température, elles varieront de 5 à 14 degrés. Côté trafic, la rue André-Bockel est fermée depuis samedi pour cause de travaux.
Merci beaucoup Mathéo, j'ai quand même oublié de présenter tout à l'heure la Minute Sport de Paul autour de 18h30 et le grand retour de Solène qui est avec nous aussi en studio, Solène qui était en stage il y a quelques temps et qui est de nouveau ici. Dernière info aussi, vous la connaissez, le 15 mars, Bruno Longo qui est animateur sur cette même antenne mais aussi auteur sera en dédicace du côté du Auchan d'Avry et donc le 15 mars sur les horaires d'ouverture tout simplement. Et puis on reste un petit peu en famille puisqu'on accueille tout de suite notre invité de ce soir.
Topette sur le 101.5.
L'invité de Topette sur Radio G.
C'est pas grave, Solène, on t'en veut pas. C'est normal, t'es en stage avec nous pendant la semaine, les deux semaines. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Alors toi aussi t'es de la maison, c'est pour ça que je dis ça, puisque t'es animateur des Voix de l'Écho. C'est le mercredi à 12h10, un mercredi sur deux je crois.
Hein. Exactement.
Mais tu n'es pas là pour nous parler de ça ce soir, puisque tu es aussi président, créateur, fondateur de Chant contre Chant. Alors peut-être qu'il faut l'épeler quand même pour comprendre le jeu de mots.
Ouais, Chant contre Chant, c'est C-H-A-N-T-S contre C-H-A-M-P-S.
Voilà, les chants qu'on chante et les chants de l'univers cinématographique, je crois. Hein.
On peut dire ça, oui.
On peut dire ça. Tu n'es pas tout seul, puisque tu es aussi avec Jessica qui va s'emparer du micro. Bonsoir Jessica.
Bonsoir.
Et bonsoir Marc.
Bonsoir.
Alors vous êtes tous deux étudiants, alors peut-être pas en M1 tous les deux, en tout cas vous êtes à l'ESTUA d'Angers en Master Médiation Culturelle et Communication. Je crois qu'il y a un autre nom Jessica pour ça.
Oui, c'est Direction de Projet et Établissement Culturel, voilà, et c'est l'option Communication et Médiation.
Et vous êtes donc impliqué dans ce festival. Alors on va peut-être donner les dates quand même pour les infos pratiques. Du 22 au 24 mars, ça se passe au 4. Alors le 4 pour situer quand même si on connaît pas Yves.
C'est 4 allée François Mitterrand à Angers dans le quartier Saint-Serge en face de la fac en fait de droit.
Voilà, tout simplement, l'idée c'est de présenter, de mettre même en compétition des courts-métrages, des vidéoclips. Il y aura un jury, 4 prix, alors les prix je les ai plus en tête, il y a le grand prix, le prix du public, peut-être le prix de la presse, non, des choses
non,
comme ça.
Pas le prix de la presse, donc grand prix effectivement, le prix de la meilleure musique, parce qu'il faut préciser que c'est quand même l'ADN du festival, c'est les musiques originales, le meilleur vidéoclip et le prix du public.
Voilà, présidé par une certaine Véronique Augereau qu'on devrait avoir par téléphone, non pas au cours de cette émission, mais pour en reparler au cours de la semaine, et notamment aussi Philippe Pétieux et même Sandra Rigordeau qui est ici. On expliquera tout à l'heure qui sont ces personnes, entre autres, puisqu'on n'a pas tout cité, mais déjà, j'aimerais revenir avec toi, Yves, sur l'historique de ce festival, parce que il est né en 2004, il s'est endormi en 2007. En plus, c'était du côté de Poitiers. Ensuite, il a voyagé et puis il renaît aujourd'hui en 2024. On aimerait comprendre un petit peu l'historique de tout ça.
Exactement. Alors, ce festival est né en 2004, enfin l'association en fin 2003. Et le festival en 2004, quand j'étais moi-même étudiant à Poitiers. Et pendant 4 ans, on a donc voulu créer un festival suite à une nuit du court-métrage pour laquelle j'avais participé avec mon premier court-métrage que j'avais réalisé en 2003. Et en 2007, donc dernière édition, parce qu'ensuite je suis parti travailler en Angleterre et personne n'a voulu reprendre l'organisation derrière moi. Et là, 2024, ça fait 20 ans que le premier festival a eu lieu et j'ai trouvé que c'était une belle date anniversaire pour pouvoir relancer en fait ce festival. Et comme je suis maintenant sur Angers depuis plus de 10 ans, je le fais là où j'habite.
Jessica, Marc, ça tombe bien puisque du coup, ça vous arrange bien vis-à-vis de vos études de pouvoir être impliqué dans un tel événement. Comment vous avez accueilli le projet, vous, Marc, par exemple ?
Alors, c'est dans le cadre de nos PEA, donc c'est des projets qu'on a tous à faire par groupe et on nous a proposé ce festival. Et moi, comme je m'intéressais personnellement au cinéma, j'avais fait des études de cinéma avant. C'était tout trouvé.
Et toi, Jessica, fan de cinéma peut-être avant ?
Oui, toujours. Moi, j'ai toujours été très, très animée par le cinéma. Du coup, c'est vrai que c'est tout de suite un projet qui m'a beaucoup plu. Et puis, on est surtout axé sur la communication du festival. Moi, je viens d'une licence information communication. Du coup, c'est un projet qui m'a tout de suite mis à l'aise. Du coup, on s'est vite dirigé vers ce projet.
Est-ce que c'est vous qui avez construit l'affiche, réalisé l'affiche? De quoi elle parle, cette affiche? Elle est noire avec un sorte de personnage en rouge qui danse, qui chante. Il y a aussi des notes de musique. Qui pour nous la décrire? Jessica, je vois que tu t'empares d'un flyer.
Oui. Du coup, avec toute notre équipe du PEA, on a décidé de partir sur une charte graphique plutôt classique avec des couleurs très, très simples et, Marc, grâce à InDesign, a pu créer des petits logos comme les notes de musique. Et c'est en fait un gorille, le petit personnage, qui reprend le gorille des premières éditions de Chant contre Chant.
D'accord. Pourquoi le gorille, c'est la mascotte en fait, Yves?
Alors, c'est devenu plus ou moins la mascotte lors de la dernière édition qu'il y a eu en 2007. En fait, parce que celui qui avait créé l'affiche, un copain illustrateur, était assez fan de King Kong. Et en fait, il a dessiné donc un gorille sur l'église Notre-Dame à Poitiers, comme King Kong en fait sur son building. Et donc voilà, c'est resté là. Et quand j'ai parlé du projet en fait aux étudiants, je leur ai montré effectivement les anciennes affiches. Et en fait, ils ont trouvé ça pertinent de repartir sur cette iconographie.
Voilà, peut-être un petit mot de ta part, Julien, sur cette initiative, parce que j'imagine que pour l'instant ça reste encore un peu flou, t'as peut-être du mal encore à voir les vidéoclips, quel type vont être mis en compétition, les courts-métrages.
Oui, la question que je me posais à l'instant et que j'imagine tu poseras tout à l'heure, c'est qui participe? Est-ce que c'est réservé à des étudiants? Est-ce que c'est réservé aux Angevins? Est-ce que c'est ouvert à plus? Donc oui, ça m'intrigue.
Et voilà une question qu'on pose tout de suite à Yves, Marc et Jessica.
Alors, c'est ouvert à tout le monde. Il y a eu donc un appel à candidature qui a eu lieu jusqu'au 29 février. À la toute base, c'était pour les étudiants. Puis finalement, dans la construction du festival, finalement, on a ouvert, tout en gardant quand même cet ADN de musique originale. Je voulais éventuellement faire une section spéciale étudiante, mais il n'y a pas eu suffisamment de films étudiants qui ont été envoyés. Donc je l'ai enlevée celle-ci. Mais c'est en fait il y a des Angevins, il y a même un film belge. Il y a plusieurs courts-métrages et vidéoclips.
Pour bien comprendre, du coup, quand tu parles de musique originale, c'est-à-dire que les courts-métrages, les réalisations doivent obligatoirement tourner autour d'un thème musical de base. Ça peut être un clip plus long, une histoire qui accompagne un titre musical, forcément?
Alors, en fait, il faut que ça soit une composition originale. C'est-à-dire dans le sens où il faut, par exemple, pour un court-métrage, que le compositeur crée spécifiquement la musique pour le film. Et pour le vidéoclip, quelque part, on reste sur des création originale, on n'est pas sur des covers en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment de la création pure et que y a un réalisateur derrière qui vient créer un clip.
Julien?
Ouais, est-ce qu'il y a une durée spécifique des courts-métrages pour pouvoir aller en compétition?
Alors c'était maximum 15 minutes. On a des films, le plus court fait 1 minute 45 ou 53, quelque chose comme ça, 53, ouais. Et le plus long fait 13 minutes.
Jessica, Marc, est-ce que vous avez pu en voir certains ou vous avez simplement fait la communication et vous allez découvrir ensuite tous les clips, toutes les réalisations proposées ou vous avez pu les voir avant, Marc?
Moi, j'en ai pas vu. Je sais pas si toi, t'en as vu, Jessica.
Non, j'ai pas encore eu cette chance.
Bon, c'est la grande surprise.
On est deux personnes en fait à avoir vu les films. Donc, il y a mon collègue de l'Estua, Jérôme Godet, avec qui on fait binôme à l'Estua, et puis moi-même. Qui ont vu les films pour l'instant.
Donc deux personnes pour sélectionner, un petit peu plus de monde pour choisir les vainqueurs des différents prix, des quatre différents prix. Il y aura notamment le public et le jury qu'on a commencé à énoncer tout à l'heure. Ce que je propose, c'est d'en parler dans quelques instants. Et juste avant, on écoute un titre musical aussi qui a été clippé il n'y a pas longtemps. Je jette des boîtes de Julien Sphère sur le 101.5 FM.
Médicalement ne m'apaise pas. J'ai peut-être une belle blouse blanche sur moi, mais au final je sais pas ce que je fous là. J'aimais bien la chimie orgale, les médicaments, les soirées pharma. Mais Josiane qui me parle de son caca. Oh merde, j'ai pas signé pour ça. Une boîte de Doliprane, ça fait 2,18€. Ton max s'est fait la malle, en fait je m'en fous de ta vie. Les douleurs abdominales, fallait pas taper des huîtres. Mamie me ramène un sac rempli. Apparemment y'a plus de papy. Merci madame, je vais faire les
J'ai pas donné le bon dosage. Au pire, je dirais que j'étais en stage. Madame faisait vraiment son âge. En plus, j'aimais pas son maquillage. Ça fera gagner quelques thunes à l'état. 1000 balles de traitement, c'est toujours ça. De toute façon, je crois qu'elle le prend pas. Encore des boîtes qu'elle nous ramènera. Tu veux plus de médoc? Bah, faudra payer. T'as la carte vitale, tu crois t'es illimité. Quoi, tu plains encore et tu veux te barrer? Bah, ta carte cassée, tu sais, encore un sac plein. Un sac qu'on me ramène, c'est le 20ème sac. Même pas une semaine, y'en a des millions pour qui ça pourrait changer la vie. Et si tu veux mon avis, ils s'en tapent ici. Et moi je jette des boîtes, je jette des boîtes, je jette des boîtes, je jette des boîtes.
Vas-y Julien.
Je jette des boîtes.
Et voilà, d'un Julien à l'autre, on est toujours sur le 101.5 FM de Radio G avec nos invités de ce soir.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Tu es fan, Julien? De Julien, c'est incroyable, ah ça, Julien Sphère qu'on vient d'écouter.
Non, c'était une très belle rencontre quand on s'est rencontrés il y a 2 ans et depuis je suis son actualité de pharmacien-chanteur absolument incroyable.
Voilà, ça c'est Noodles, notre chroniqueur volant. On lui pose une question et puis il nous raconte toute sa vie en entier. Voilà, il n'y a pas d'intimité ici dans
Mais non, studio, on fait profiter à tous les auditeurs de tout ce qu'on vit.
Bon, en tout cas, en tant que chroniqueur volant, donc tu es spécialiste sport, spécialiste. Tu connais le sport, tu connais le théâtre, la musique un petit peu, j'ai l'impression, et aussi le cinéma. Et ça tombe bien puisqu'on est toujours avec Yves, Jessica et Marc pour parler du festival Chant contre Chant. Le chant qu'on chante et le chant du cinéma. Et puisque tu y connais un petit rayon, Julien, tu avais encore des questions, je crois,
oui,
à poser.
Oui. Alors déjà, je me demandais combien de courts-métrages avaient été envoyés, combien vous en aviez reçus, et s'il y avait une sélection avant que vous les diffusiez, avant que vous les projetiez les 22 et 23 mars.
Alors, on en a reçu quelques-uns. Alors, pas autant que j'aurais voulu, mais en même temps, on est sur une relance d'un festival. Donc on a eu 22 films qui ont été envoyés, et sur les 22, on en a gardé 19.
Ah oui, donc c'était une courte sélection finalement.
Ouais, on a fait une courte sélection. En fait, elle a été assez rapide dans le sens où il y en a qui rentraient pas en fait dans les critères, notamment de musique originale, ou alors même sur des, on va dire des conflits un peu jugés partis, mais on pourra en parler un peu plus tard éventuellement par rapport au programme.
Et comment ça se passait pour Tu l'as dit, c'est une relance de festival. Ça fait 17 ans qu'il a pas eu lieu. J'ai vu que dans vos partenaires, vous avez l'Université d'Angers. On fait partie aussi des partenaires. Comment vous avez fait justement pour faire la communication de ce festival et recevoir des films? Parce que c'est pas simple quand ça fait quasiment 20 ans qu'il n'a pas eu lieu.
Une question peut-être pour Jessica et Marc aussi.
Hein. Exactement. Ouais. Je pense que Jessica tu peux, et Marc, vous pouvez répondre à cette question.
Oui, avec plaisir. Bah, du coup, ce qu'on a essayé de faire, on s'est beaucoup axé sur les réseaux sociaux parce que quand même, comme de base, c'était un festival axé pour les étudiants. On a essayé de taguer les associations universitaires, l'université, etc. pour... qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Et du coup, on a créé tous nos petits visuels de poste. On a essayé d'animer un peu la page Instagram avec des petits quiz, des stories, etc. Et j'espère que ça a pu rapporter quelques courts-métrages. Donc, on est plutôt contents.
Là, vous êtes deux avec nous en studio. Marc, il y avait peut-être un petit peu plus de monde dans les PEA, je sais plus comment.
PEA. En tout, on était une dizaine, 10 ou 11, je sais plus exactement.
Ouais, on est une dizaine de personnes dans le PEA. Et on est tous regroupés dans des pôles différents, donc on va avoir un pôle communication qui va charger des réseaux sociaux, etc. On a un pôle site web qui, eux, ils ont refondé tout le site web, etc. Mais on a aussi un pôle médiation, du coup, qui s'occupe de créer des petites animations pour le jour J, pour le samedi 23. Donc on espère que ça plaira à tous ceux qui viendront.
Et nous aussi, dans quelques instants, on aura notre pôle pour la Minute Sport. J'ai oublié de l'annoncer tout à l'heure. Et puis pour la communication et le rayonnement aussi du festival, il y a un peu des têtes d'affiche. Alors non pas dans la compétition, mais dans le jury, puisqu'il y a notamment Véronique Augereau et Philippe Pétieux. Alors dit comme ça, on voit peut-être pas trop qui sont ces personnes-là, mais tu peux peut-être les présenter. Et puis les autres membres aussi.
Exactement. Alors la présidente du jury, vous la connaissez mieux par sa voix, parce que c'est la voix de Marge Simpson, la voix française officielle de Marge Simpson, mais aussi de Jamie Lee Curtis, par exemple, ou de Sarah Connor, j'ai oublié le nom de l'actrice, Hamilton quelque chose.
Dans Terminator.
Linda Hamilton, merci beaucoup, Julien. Et donc, on a aussi Homer Simpson, donc la voix officielle française d'Homer Simpson, ou de Danny DeVito, donc Philippe Pithieux. Et en fait, Véronique et Philippe sont en couple dans la vie de tous les jours. Donc ça a été un peu du sens. Et alors, je l'ai contacté parce que Véronique, déjà, elle est angevine de naissance. Et puis parce que bah voilà, j'aime beaucoup les Simpsons et je fonctionne souvent j'ose en fait directement les choses et puis bah j'ai contacté son agent et puis ça s'est fait comme ça. Après dans les membres du jury, alors les membres du jury sont très quand même axés comédiens pour alors c'est le hasard hein, qui a fait ça. Mais on a également Emmanuelle Landeille qui est une improvisatrice comédienne qui fait partie des Espresso, de la troupe des Espresso. On a effectivement Sandra Ricordo, donc coordinatrice médiation culturelle, qui a une chronique ici voilà sur Radio G, que j'ai rencontré à Radio G, et voilà, c'est comme ça qu'on a pu échanger et que je lui ai proposé d'être dans le jury. On a Romain Mercier qui est compositeur. Pour le coup, il y a un film où il a été le compositeur, qui a eu un prix en 2022 à Los Angeles pour la meilleure musique de film. Et ce film, donc qui s'appelle Silence, sera diffusé dans la cérémonie de clôture, par exemple. Et puis on a aussi un étudiant, Gabriel Oudaillé, qui est donc à la fois coprésident de l'association Les Courants Numériques, qui est donc à l'ESTUA, et qui fait partie aussi donc du projet, bien évidemment, d'organisation.
Avec Julien, on a une question, c'est sur quels critères va se baser ce jury pour déterminer qui doit avoir tel prix. Comment on va définir ça? Est-ce que tu leur as donné une ligne éditoriale à suivre?
Alors pour l'instant, j'ai pas donné de ligne édito spécifique. Après, ça va beaucoup se faire, je pense, au feeling et eux, par rapport à leur, tout simplement à leur discussion qu'ils vont faire, hein, parce qu'ils donc ils ont la compétition, les projections officielles, c'est le dimanche 24 mars, donc de 11h à 13h où ils seront présents, et ensuite derrière il y aura la délibération entre eux pour voir ensuite le soir annoncer les différents vainqueurs.
Alors, un prix, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance. Est-ce qu'il y a des petites contreparties aussi? Parce qu'on parlait des partenaires tout à l'heure. Je sais pas, peut-être l'accès aux quatre pour une conférence pour la personne qui gagne, ou je sais pas. Hein.
Alors on a via nos partenaires les ateliers, enfin l'atelier Vier, il y a des trophées qui sont réalisés. Et puis on a aussi un partenariat en cours, mais je vous le dis pas encore parce que c'est pas tout à fait encore signé, mais qui va aussi être un prix physique, enfin quelque chose de physique.
Bon bah je creuse pas plus si c'est pas encore signé, mais tu nous tiendras informé. En tout cas, on espère que ça va aboutir d'ici la fin du mois de mars, en tout cas d'ici le déroulé de ce festival du 22 au 24 mars. Je me tourne vers Marc et Jessica plutôt sur la com. Le jour J, est-ce que vous serez est-ce que vous serez présent sur place? Est-ce qu'il va y avoir un accompagnement spécial pour le public, pour les personnes qui vont venir? Comment le jour J on communique auprès des personnes qui sont là, Marc ou Jessica?
Alors on sera présent avec d'autres de nos camarades. En tout, je crois, on sera 4 ou 5. Et du coup, on va continuer à faire des stories Instagram, des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi des activités de médiation qui ont été prévues par nos collègues. Donc, Jess, je peux peut-être s'expliquer.
Jess, on l'appelle comme ça désormais.
Oui, c'est ça. du coup, oui, il y a notre équipe médiation qui a créé des petits jeux tout autour de la thématique du cinéma, mais aussi des compositeurs, etc. Du coup, voilà, elles ont aussi mis en place, elles vont mettre en place une sorte de blind test. Donc voilà, il va falloir animer tout ça, ça va être super sympa. Et il y a aussi, dans les partenaires, il y a plutôt en collaboration, on pourrait dire, l'Association universitaire des courants numériques. Donc c'est l'association de notre master. Et du coup, ils vont tenir le bar le samedi soir. Du coup, voilà, c'est pour permettre de les montrer au grand jour, et ça leur permet de vivre un petit peu au sein de l'université.
Bon, en tout cas, ce sera un grand moment, l'aboutissement de plusieurs pôles de réflexion, de groupes de travail, tout ça pour les PEA, il me semble. Voilà, c'est ça. Yves, d'un mot avant de passer à autre chose, est-ce que tu sais estimer combien de personnes il pourrait y avoir sur les 3 jours?
Eh ben, il y a 113 places aux 4. 113 places assises, que ce soit pour les projections, même pour la soirée concert. L'objectif, bah, c'est de faire le plein. Donc, tout simplement, on multiplie 100 par le nombre de séances qu'il y a. Donc, bah, s'il peut y avoir 400 ou 500 personnes dans le week-end, ça peut être chouette.
Oui, et si vous avez envie d'y aller, que vous n'avez pas encore toutes les infos pratiques, rassurez-vous, on les redonne tout à l'heure en fin d'émission. Et aussi vos parcours à vous, Jessica et Marc, vers où vous vous destinez, comment l'organisation la co-organisation de ce festival a pu avoir un impact bénéfique sur votre cursus scolaire. On va passer à la Minute Sport avec toi, Paul, dans Topette. C'est parti.
La Minute Sport de Topette.
Bonsoir Paul.
Bonsoir à tous. Angesco cale à Valenciennes la course au play-off pour le basket angevin. On va parler Duc d'Angers et trois nouveaux porteurs de la flamme olympique. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport. Comme à notre habitude, on débute cette chronique sport en football avec Angesco en Ligue 2 qui jouait contre Valenciennes samedi soir. Sur le papier, une rencontre largement abordable contre le dernier du championnat. Mais les hommes d'Alexandre Dujot n'ont jamais trouvé la faille face à leurs adversaires et sont rentrés avec le point du nul 0-0. Cela avait pourtant très bien commencé pour les Angevins avec un poteau d'Esteban Lepaul dès la première minute de jeu. Un nul qui fait d'autant plus mal qu'au même moment, Auxerre, leader au classement, était mis en échec contre Saint-Étienne, désormais à 2 points des Auxerrois. Les Noirs et Blancs ratent donc de peu la possibilité de reprendre la couronne à leurs rivaux, mais restent deuxième. A noter aussi que le milieu de terrain Joseph Lopi s'est fait opérer de la cheville la semaine dernière et pourrait ne plus rejouer de la saison.
Alors si pour le football ça va mal, Paul, qu'en est-il du basket angevin ?
Eh bien, c'est un peu fortune diverse pour le basket en Anjou, Pierre Benoît. On commence par le positif avec Cholet Basket qui s'est imposé ce week-end à l'extérieur sur le parquet de Bourg-en-Bresse sur le score de 78-80. Un très gros succès des Choletais contre la troisième équipe du championnat. Les hommes de Laurent Villa ont commencé fort en infligeant 11-18 dans le premier quart-temps. Les deux suivants, la tendance s'inversait avant de voir Cholet reprendre la main dans l'ultime période. Un succès qui les réintroduit provisoirement dans le top 8, synonyme de play-off. L'Union féminine d'Angers Basket est elle aussi à la course pour les phases finales et pour le moment à la 8e place de la Ligue féminine. Les joueuses d'Aurélie Bonan sont revenues assez facilement avec la victoire la semaine passée contre Montpellier et jouent ce week-end un match qui s'annonce difficile contre Bourges, une équipe qui joue le titre. Et puis en Pro B, l'étoile Angers Basket continue de sombrer. Les Angevins ont été défaits par La Rochelle 59-79 et sont toujours à la dernière place du classement. On passe maintenant au hockey sur glace avec les Ducs d'Angers, je vous en parlais la fois dernière. Ça y est, l'heure des playoffs de la Ligue Magnus est enfin venue pour Angers. Alors pour remettre un peu dans le contexte, en hockey, pour déterminer les adversaires lors des phases finales, il est établi que le premier de la saison régulière rencontre le huitième, le second affronte le septième, etc. Ce qui fait qu'Angers s'est vu attribuer les Jokers de Cergy, une équipe qu'ils ont affrontée 4 fois depuis le début de la saison et contre qui ils n'ont jamais été battus. On imagine qu'il fallait bien un début, c'est juste dommage que ce soit lors du premier match des playoffs et d'autant plus à domicile, parce que ces playoffs, hein, hockey comme dans d'autres sports, c'est un peu une compétition à part, une nouvelle saison qui commence avec l'enjeu de la Coupe Magnus. Et vendredi, le parcours des Angevins a donc mal débuté, comme je vous l'ai dit, par une défaite 1-3 contre les Jokers, malgré avoir ouvert le score à 50 secondes du coup d'envoi. Après ce match raté, il faut le dire, les Ducs se sont rattrapés laborieusement lors de la revanche le lendemain, en l'emportant 5-2. Alors pour vous expliquer un peu le fonctionnement des playoffs, je vous ai déjà dit que le deuxième affronte le septième, etc. Les Ducs d'Angers ont donc joué 2 matchs contre Cergy. Ils ont perdu le premier et remporté le second. Il y a donc 1-1. Pour avoir les demi-finales, il faut en remporter 4. Les 2 premiers duels étaient à domicile pour les Angevins. Les 2 prochains, ce mardi et mercredi, ce sera à Cergy et de retour samedi à l'Ice Park d'Angers.
Grosse annonce enfin concernant les porteurs de la flamme olympique.
Tout à fait, Pierre Benoît, après la kayakiste Vanina Paoletti, la psychologue Claire Pogu et le cavalier Nicolas Touzin, 3 nouveaux porteurs de la flamme olympique ont été choisis par le département de Maine-et-Loire. Les heureux élus sont Amidou Maïgam, médaille d'argent 2023 au concours départemental de CAP Mode, Rose Leger, jeune sapeur-pompier volontaire, et Noah Chupin, 6e meilleur pongiste du département. Pour rappel, la flamme olympique passera en Maine-et-Loire le 28 mai prochain et fera étape dans 7 commune. Dans le reste de l'actualité, l'université d'Angers accueillera une grande dictée du sport le samedi 30 mars, une étape locale d'un concours organisé à l'échelle nationale dans le but de promouvoir la pratique sportive. C'est gratuit et ouvert dès 10 ans, mais les inscriptions sont obligatoires. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour l'une minute sport.
Merci beaucoup Paul. Quoi, il dit à très vite, c'est dans 2 semaines. Mais non, parce que je lui annonce maintenant qu'on ne sera pas là. Il n'y aura pas d'antenne dans 2 semaines. Mais c'est pas grave. On n'a pas parlé du Stade Lavallois dans la minute sport, Julien.
Oui, ça joue ce soir.
Bah alors ?
On joue à l'extérieur. Je ne sais même plus contre qui on joue. C'est peut-être à Caen, je crois que c'est.
On est quelle place en ce moment du côté de Laval ?
Ah, on ? Tu es pour Laval aussi ?
Ah non, alors, pas du tout. Non, je dis on. C'est
on
rhétorique.
On est 3e, on est juste derrière Angers. Donc très content du nul à Valenciennes. Désolé pour les Angers qui nous écoutent. Mais Saint-Etienne qui revient, ça revient à égalité. 45 points chacun. Donc il faut une petite victoire ce soir à l'extérieur.
Paul, il est pas serein là. Julien est en train de lui piquer sa minute sport. Est-ce que t'es fort en magie, toi ? Est-ce que t'as appris des tours de magie peut-être quand t'étais enfant ?
Oui, je connais quelques tours de cartes.
Vas-y, fais-en un pour voir. Hop, hop.
Voilà.
Et c'est parti, la magie.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Vive la magie, c'est le nom du plus grand festival de magie d'Europe et quelle chance avons-nous de le voir faire escale à Angers le samedi 16 mars au Centre des Congrès. Créé à Rennes, c'est la 16e édition nationale qui arrive. Avec nous, Gérard Souchet, directeur du festival et lui-même magicien. Bonsoir Gérard.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci de nous accorder ce temps. 2 galas internationaux, des ateliers magiques. Expliquez-nous un petit peu cette journée.
Eh bien, c'est l'étape traditionnelle du festival à Angers. Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes présents chaque année avec beaucoup de joie parce qu'on est très attendu. On a vraiment de vrais aficionados sur Angers. Donc on a donc ces 2 grands spectacles qui sont un petit peu la locomotive du festival où on accueille eh bien quelques-uns des plus grands artistes magiciens du monde qui viennent spécialement pour la tournée du festival Vive la Magie. On accueillera notamment un artiste japonais qui vient pour la première fois en Europe, Tomonori Kurokawa, mais on aura aussi un artiste suédois qui vient pour la première fois en France, lui aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de d'artistes jamais vus. Et puis aussi, vous l'avez dit, donc on a donc des ateliers pour les 7-10 ans où on apprend la magie, on apprend que le truc n'est pas le plus important, mais c'est un ensemble de paramètres qu'il faut connaître pour pouvoir être un bon magicien. Donc on veut en faire vraiment une fête de la magie sur Angers. C'est un petit peu le propos du festival, c'est de sortir la magie des clichés et surtout comprendre qu'on y passe un moment heureux, un moment où on rit ensemble, on ne rit pas de quelqu'un mais on rit ensemble et on s'émerveille tous ensemble réunis. C'est un petit peu ça la magie, surtout pour le festival, au sens où c'est un art qui rassemble, qui ne cherche pas à diviser, mais un art qui rassemble.
L'objectif de ce festival aujourd'hui, c'est d'être tout public, de pouvoir couvrir tous les âges en fait.
Oui, c'est un petit peu aussi la force de la magie, enfin du festival déjà dans un premier lieu, mais c'est la force de la magie, c'est-à-dire qu'on est 5 ans, 10, 20, 30 ou 80, eh bien il y a plusieurs niveaux de lecture grâce au spectacle qui a été écrit et mis en scène par François Normague, qui est lui aussi magicien, mais qui est aussi premier prix de conservatoire. C'est un art qui rassemble, je vous l'ai dit, et on y trouve tous, selon son âge, selon son expérience, sa vie, eh bien, une lecture qui est vraiment étonnante. Et puis on prend conscience aussi que dans ce monde d'images dans lequel nous vivons en 2024, on se rend compte que la magie, c'est aussi apprendre à décortiquer les images, apprendre à lire les images pour mieux s'en préserver.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, on aura des artistes japonais, suédois, également russes, espagnols et allemands. C'est aussi une volonté du festival d'être une véritable croisée des cultures et des horizons.
Mais oui, c'est ça, la magie, ce qui est trop souvent enfermée dans le franco-français. Et on cherche par ce biais, en invitant tous ces très grands artistes qui ont des carrières mondiales, qui sont vraiment au plus haut du niveau possible en magie. Certains sont même champions du monde. Alors c'est un peu bizarre de dire ça pour un art, mais les magiciens font des concours en fait entre eux pour déterminer quel est le plus brillant en termes d'innovation, de comédie, de dramaturgie. Et on aura la chance d'accueillir notamment Artem, qui est un artiste russe qui a été primé champion du monde des magiciens. Mais au-delà de tout ça, comme vous l'avez dit, l'idée c'est de mélanger, de faire œuvre de pluralité, de diversité, d'ouverture déjà, tout simplement, avec une programmation totalement éclectique qui montre qu'il n'y a pas une magie, mais il y a des magies.
Est-ce qu'aujourd'hui on a une vraie différence entre les magies internationales? On sait que tout s'exporte très vite, mais est-ce que le point culturel est marqué dans la magie, par exemple, de ce japonais qui vient?
Mais oui, oui, vous avez raison, c'est vraiment marqué. On se rend compte que la magie japonaise, eh bien, est une magie extrêmement délicate, tout en finesse, tout en délicatesse. Ça, c'est vraiment étonnant. Et chaque fois qu'on a fait appel à des artistes, qu'ils soient japonais, coréens, taïwanais, on retrouve un petit peu cette ligne directrice du délicat, du sensible et de l'émotion aussi, parce qu'ils amènent vraiment quelque chose de différent des amis asiatiques, contrairement à des amis magiciens espagnols qui, eux, sont plus dans l'exubérance, mais toujours très heureuses. Mais c'est vrai que ce sont des approches différentes. Et je peux vous le confier, quand on est à table avec tous ces artistes, eh bien, on se rend compte que ces mélanges, ces différentes approches, eh bien, nourrissent les unes les autres, se nourrissent entre elles. C'est vraiment une vraie joie de partager, et puis surtout une vraie chance, parce que on se rend compte que de la diversité naît la richesse.
Vous l'avez dit tout à l'heure, on a la présence d'artistes primés par la Fédération Internationale des Sociétés Magiques. J'imagine que c'est aussi une volonté du festival de proposer au public les meilleurs magiciens.
Oui, oui, ça c'est une vraie volonté. Depuis toujours, depuis 16 ans que le festival existe, on s'est dit que si on voulait que la magie retrouve ses lettres de noblesse pour le public français, pour les instances culturelles françaises, eh bien, il fallait absolument travailler avec les meilleurs. C'est ce qu'on fait depuis le début. C'est ce qui fait aussi que le festival Vive la Magie est reconnu par ses pairs en France, en fait, comme la référence des festivals de magie, car on engage les plus grands artistes contemporains. Et c'est ce qui fait aussi sa pérennité, parce que les spectateurs le savent, ils ne connaissent pas forcément les artistes. Le monde magique est assez secret, on ne connaît pas les noms de tous ces grands artistes, mais les spectateurs savent qu'en venant au festival Vive la Magie, ils passeront un très bon moment. C'est le contrat invisible qu'on a passé avec les spectateurs. Venez, ayez confiance et vous passerez un moment heureux.
C'est pas la première fois que vous passez à Angers. Pourquoi avoir choisi Angers? On avait une vraie demande dans cette ville.
Et oui, c'est exactement ça. Il y avait une vraie demande. Quand on a démarré le festival il y a 16 ans à Rennes, on s'est rendu compte qu'on avait des spectateurs qui venaient de Angers, tout simplement. Et au bout de quelques années, au bout de 3 ans, je crois, 4 ans, parce que ça fait 10 ans qu'on vient à Angers, 11 ans, pardon, eh bien, on s'est dit, pourquoi pas monter un projet sur cette jolie ville d'Angers. Et on réfléchit pour l'année prochaine, voir si on va pas rajouter une journée supplémentaire de l'étape angevine du festival.
Merci d'avoir pris ce temps avec nous, Gérard Souchet. Avant de clôturer cette interview, est-ce qu'il y a d'autres actualités dont vous n'avez pas pu parler et dont vous aimeriez nous notifier?
Eh bien oui, avec plaisir. Sachez que tous les mois, on a des petites vidéos qui sont publiées, qui sont gratuites sur le site du festival, sur vivelamagie.com et aussi sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube, qui permettent d'apprendre la magie. C'est ce qu'on appelle les tutos de Tonton Gaëtan. Ce sont des petites vidéos courtes où on apprend des tours de magie qui sont relativement faciles à acquérir et surtout qui ont un très bel effet auprès de ses proches, de ses spectateurs. L'an prochain, on aura Gaëtan Blum, qui est une star dans le monde des magiciens, qui est un personnage très très célèbre. Donc ces tutos se feront carrément en vrai l'année prochaine. Il y a des tas de vidéos sur la culture magique aussi. Pour ceux qui connaissent peu ou pas la magie, c'est l'occasion unique de découvrir d'autres pans de ce monde de l'émerveillement, de ce monde du merveilleux.
On invite tous nos auditeurs à aller voir ces vidéos pour peut-être un jour, pourquoi pas, faire partie des invités du festival Vive la Magie. En tout cas, avec nous, c'était Gérard Souchet, directeur du festival Vive la Magie, qui investit le centre des congrès le samedi 16 mars à 17h et 20h30 pour deux galas. Merci Gérard.
Merci à vous et vive la magie.
18h10, 19h, c'est Topette. sur Radio G.
Merci Mathéo. Bah, au moins maintenant on sait ce que tu vas faire le 16 mars. Voilà, tu seras du côté du Festival de la Magie. Superbe tour de cartes. Hein. Je reviens là-dessus, oui. Julien, tout à l'heure. Waouh.
Tout le monde était impressionné. L'As de cœur, c'est un de mes tours préférés, je dois le dire. Je le fais souvent. Et je remercie aussi les auditeurs qui m'ont envoyé des messages pendant l'interview de Mathéo et qui m'ont remercié pour ce tour.
Eh ben écoute, merci en tout cas d'être venu pour faire ce tour. On revient sur le festival Chant contre Chant et il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est écouter la bande-annonce qu'on diffuse et qu'on écoute maintenant sur le 101.5 FM.
Les 22, 23 et 24 mars à Angers, venez participer au festival Chant contre Chant. Au programme, compétition et diffusion de courts-métrages et vidéoclips avec musique originale. Une soirée concert électro, une séance de dédicaces ainsi qu'une table ronde autour de la musique de film. Les 22, 23 et 24 mars, venez participer au festival Chant contre Chant. Tout est à l'espace culturel le 4. Allez, François Mitterrand, à Angers.
Est-ce que je peux rajouter que je serai la présidente du jury pour les courts-métrages?
Mais bien sûr, Bibiche. Alors venez nombreux, c'est du cinoche, c'est mieux que la pub. Pinaise, à bientôt.
Informations et billetterie sur le site champcontrechamp.com.
Et ben voilà qui donne envie, ça tombe bien, puisque Yves, Jessica et Marc sont là pour nous parler de Chant contre Chant. Jessica et Marc sont en M1 de communication événementielle, production, direction d'événements... C'est quoi le titre officiel du master, Jessica?
Alors c'est Master Direction de Projet et Établissement Culturel, option Médiation et Communication.
Et dans ce cadre-là, Marc, avec les PAE...
PEA
C'est ça, Marc, hein, PEA.
Oui, c'est ça, c'est le PEA.
Voilà, vous avez participé à la communication autour du festival Chant contre Chant. Et Yves, toi, tu es le président, hein, c'est toi le papa, finalement.
Je suis le président du Chant contre Chant, effectivement, depuis 2003.
Ça fait. Si on peut-être un mot sur la programmation, c'est sur 3 jours. Comment ça se déroule, en fait? On n'en a même pas parlé tout à l'heure.
Alors, le 22 mars, on a une soirée d'ouverture, tout simplement, avec des projections de courts-métrages hors compétition, en présence des réalisateurs, et même de certains compositeurs ou musiciens ou artistes. Et en fait, l'idée, c'est aussi de leur donner la parole pour savoir comment ils ont travaillé et comment ils ont collaboré sur, justement, ces courts-métrages. Le samedi 23 mars, donc on a la médiation culturelle à l'espace donc au 4, qui est faite par les étudiants, toute la journée, avec notamment le concours de blind test l'après-midi. On a une séance de dédicace qui exclusivité depuis aujourd'hui. On a signé un partenariat avec le Repère des Héros, au centre-ville rue de Larreau à Angers. Il y aura la séance de dédicace donc de Véronique Augereau et Philippe Pétieux, donc les voix officielles de Marge et Homer Simpson. 15h30, il y aura donc un premier échange d'une demi-heure avec eux, et puis ensuite il y aura donc la séance de dédicace. Et puis le soir, on a donc la soirée concert avec Une Île, qui est un festival, un spectacle électro, et puis un ciné-concert aussi d'un groupe monceau qui s'appelle Naked in Sphere, le 23 mars. Et j'ai pas fini, je suis désolé, c'est très long. Et le dimanche 24 mars, la grosse journée aussi, donc projection des compétition officielle en présence du jury de 11h à 13h, une rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu venir le matin de 14h à 16h, et ensuite de 17h15 à 18h45, il y aura une table ronde autour de la musique de film avec deux compositeurs qui vont venir et un journaliste spécialisé dans la musique du film. Donc c'est en partenariat avec le site cinesic.fr, table ronde qui sera rediffusée en direct d'ailleurs sur Radio G, en partenariat avec l'émission Générique. Et puis la soirée de clôture avec diffusion des films primés, annonce des films primés, et puis encore quelques courts-métrages hors compétition.
Eh ben voilà d'un beau programme. Je me tourne vers la communication, Marc et Jessica. Le site internet, les réseaux sociaux, peut-être un TikTok, qui sait?
Pas encore, mais pourquoi pas, on pourrait ouvrir ça pour le jour J. Pourquoi pas?
Alors, c'est quel nom il faut taper pour retrouver du coup le festival Chant contre Chant? C'est important de les plaire aussi. Sur Instagram, ça s'appelle comment?
Bah, l'Instagram, c'est Chant contre Chant. C-H-A-N-T-S contre C-O-N-T-R-E. Et le deuxième chant, c'est C-H-A-M-P-S.
Voilà, il n'y a pas d'underscore ou d'arrobase ou de 78 000, tout ça qui traîne derrière. D'un mot, juste en 30 secondes quand même. Bonne expérience, j'imagine, Marc, d'avoir pu participer à l'élaboration d'un festival concrètement, en plus qu'à cours ici, là où vous étudiez à l'ESTUA.
Oui, totalement. Surtout que, du coup, j'étais dans le pôle communication. C'était la première fois que je faisais de la communication. Donc, ça m'a vraiment lancé là-dessus. Et même pour plus tard.
Jessica, toi, c'est pas la dernière fois, j'ai l'impression.
Non, pas du tout. Bah, du coup, comme je l'ai dit, moi, je viens d'une licence information communication. Du coup, c'était plutôt mon domaine. Du coup, c'était cool de faire ça avec les copains. Et du coup voilà. Et mais ce qui était cool aussi, c'est que du coup j'ai été nommée chef projet et ça a pu m'aider dans mes recherches de stage d'avoir une expérience comme celle-ci.
Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de bon courage pour les week-ends. Bah, pas pour le week-end du 22 au 24 mars. Yves, merci beaucoup. De toute façon, on reste sur le 101.5 FM pour plus d'informations dans l'émission générale qui est dans Topette aussi. On vous fera une petite piqûre de rappel tous les soirs juste après le flash avec Mathéo. Merci beaucoup. Demain, on est avec le TH. V avec les enfants aussi et Bordel Léon. Et puis bah pour le reste de la semaine, bah restez hein, 18h10, 101.5 FM. Prenez soin de vous, à demain et Topette
et allez Laval.
Oui, ou le SCO, c'est pareil, c'est mieux.
Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il? Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font 16 agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de ville comestible, fertile et désirable. Dans cet épisode, nous ferons un pas de côté avec Charline Verger. Étudiante à l'Institut Agro, Charline s'est accordée l'année dernière une année de césure pendant ses études de paysagiste. Une pause avec pour objectif explorer des facettes de l'agriculture urbaine et affiner son projet professionnel avant de reprendre son master. Ouvrir le champ des possibles, imaginer de nouvelles pratiques qui mènent aussi à de nouveaux horizons. Charline aborde sa vie professionnelle avec engagement pour s'investir dans l'aménagement de villes fertiles. Bonjour Charline.
Bonjour Anne.
Alors tout d'abord, la question que je pose à chaque fois, qui évoque pour toi l'expression agriculture urbaine?
Alors agriculture urbaine, je le vois comme de nouvelles pratiques émergentes en ville, qui peuvent être plurielles, allant du petit balcon de 3 mètres carrés à une ferme piscicole par exemple, qui a comme objectif la production alimentaire, mais pas que. Et c'est ce qu'on voit avec tous les adhérents de Mauve qui déclinent cette pratique avec plein d'autres valeurs telles que le lien social ou la pédagogie.
Et alors j'avais envie dans cette chronique d'aborder avec toi ton année de césure. Comment toi as-tu abordé cette année particulière, cette parenthèse dans tes études ?
Alors cette année de césure, c'est à la fois un projet professionnel et personnel. C'était une pause aussi pour prendre le temps de mieux me connaître. Et en ce qui concerne l'agriculture urbaine, c'est une thématique qui me plaisait beaucoup, mais qu'on aborde assez peu dans mon cursus scolaire. Et donc c'était l'occasion d'expérimenter à la fois dans un milieu professionnel et associatif. Et ça a été extrêmement enrichissant pour moi de me développer dans ces deux milieux. Et c'est vraiment une pause accordée qui m'a vraiment aidée à définir mon projet professionnel et personnel de manière beaucoup plus définie aujourd'hui. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir réalisé.
Et alors, ça veut dire que tu peux le conseiller à des étudiants qui se posent des questions soit d'orientation, soit envie de faire une pause également. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller un peu spontanément pour franchir le pas d'une année de césure?
Oui, absolument. Alors pour moi, c'est vraiment une opportunité en or qui m'a été fournie par mon école. Donc je ne sais pas à quel point ça peut se décliner dans d'autres cursus, mais c'est vrai que ce soit pour en effet définir son orientation professionnelle ou simplement prendre le temps de se connaître mieux soi, voyager, etc. C'est vraiment une opportunité à prendre, selon moi, très importante, surtout en début de sa vie, comme ça, quand on se découvre, c'est l'occasion d'expérimenter à fond dans plein de domaines. Et pour mieux définir son avenir et son projet. Ouais.
Et donc après cette grande année, comment imagines-tu ton métier de demain, enfin dans 6 mois quasiment, puisque tu es en fin d'études?
une très bonne question. J'ai adoré ce que j'ai fait en année de césure. J'ai repris l'école avec des choses beaucoup plus complémentaires, beaucoup plus théoriques. Donc j'imagine un peu un mélange de tout. C'est difficile de se projeter, c'est des pratiques très émergentes, donc des métiers d'avenir qui évoluent sans cesse. Je pense que tout est à construire. Donc j'aimerais pouvoir proposer aussi dans la structure dans laquelle j'irai éventuellement mettre mes compétences au service de toutes ces valeurs que je partage avec l'agriculture urbaine, mais pouvoir faire plein de missions variées, que ce soit de la conception paysagère par exemple ou de l'animation aussi, animation pédagogique, faire de la vulgarisation de faits scientifiques, etc. Donc c'est une bonne question et j'espère pouvoir m'épanouir pleinement.